Déjà, comment vous êtes venu à aimer le cinéma?
C'est extrêmement simple. Le cinéma faisait partie de notre existence quotidienne dans les années 20 et dans les années 30. Il n'y avait pas à réfléchir. Mes parents m'emmenaient au cinéma et on y allait toutes les semaines en famille, dans les cinémas de quartier. On habitait dans le 17e, dans les Batignolles, dans une petite rue où se trouve le théâtre Héberto, la rue de Cherroy, qui est magnifiée par André Breton dans l'Adja. Et dans le quartier, il y avait d'une part le Gaumont Palace, à 5 minutes, place Clichy, avec ses 6000 places et son fameux orgue électrique. Et puis, dans le quartier des Batignolles proprement dit, au moins 5 salles dans un rayon de 10 minutes. Par exemple, le Villiers, le Royal Monceau, le Batignolles. Alors on louait. On louait pour le vendredi soir, ou le samedi après-midi, ou le dimanche. On louait éventuellement une loge. Ces cinémas ressemblaient à... avaient la topographie d'un théâtre, avec des balcons. Enfin, dans mon souvenir, c'est peut-être un peu faux ça, mais dans mon souvenir, il y a des loges. Et souvent, on était, mon père, ma mère et mes sœurs, on était 5 dans une loge. Et il fallait louer 8 jours à l'avance pour pouvoir, en week-end, s'installer confortablement, soit le samedi, soit le dimanche. Je me souviens des Misérables. La série, comme on dirait maintenant, ou le feuilleton plutôt. Non, Fescourt s'aimait. Moi je parle des Misérables, je crois que c'est Pierre Bernard. Raymond Bernard. Avec Vanel, Harry Bord et beaucoup d'autres. Voilà. Il y avait 3-4 films. Alors là, on louait pour un mois. Et c'était bondé, même en semaine. Et puis, quand c'était pas mes parents, c'était ma grand-mère qui habitait dans le 14e, chez qui j'allais déjeuner le jeudi, qui était le jour de congé pour les écoliers. Donc, je traversais Paris en métro, j'étais tout gosse. On déjeunait et cinéma l'après-midi, tous les jeudis. Alors là, le cinéma, c'était rue de la Gaîté, où il y a des cinémas porno, je crois, aujourd'hui.
Maintenant, oui, c'était surtout la rue du Téléthéâtre, il y avait le théâtre de la Gaîté.
Oui, mais il y avait plusieurs cinémas, là, aussi. Alors là aussi, ma grand-mère louait, et on allait voir des mélos, d'énormes mélos. Ma grand-mère adorait les films avec les chanteurs. André Bauger, Vanni Marcoux, des gens comme ça. Et je me souviens de quelques films, comme La Ronde des Heures avec André Bauger. C'était terrible, mais on était bouleversés. On sortait en pleurant comme des veaux. Et quand il n'y avait pas de chant, c'était également de très très gros mélos. Et bon, ben on adorait ça. Donc la question ne se pose pas de savoir pourquoi... J'aimais le cinéma, on allait au cinéma comme on allait en vacances, comme on allait manger des gâteaux à la pâtisserie, c'était tout naturel, c'était dans les mœurs, et c'était même avant la radio, bien avant la radio. Je pense pas qu'il y ait eu une radio à la maison avant 1937 ou 38, mais il y avait déjà eu plus de 10 ans de cinéma pour moi, y compris... des séances de cinéma particulières pour les gosses des écoles. Par exemple, à l'ancien palais de Chaillot, la rue Verlor, à la sortie, avec des séances d'enfants qui remplissaient la salle entièrement. Et ça a été une de mes grandes terreurs d'enfance, la rue Verlor.
Ils ont parlé dans les petits films.
Ouais, c'est ça, oui. Oui, oui. Ça m'est resté. La scène où la cabane est suspendue au-dessus d'un précipice. Voilà, ça c'était une terreur effroyable, j'en ai rêvé
pas nos devoirs. C'est ma grande terreur d'enfance et je ne vois pas de terreur semblable produite par une lecture, par exemple. Même je peux dire que le cinéma a précédé la lecture pour moi. Peut-être que j'ai vu un certain nombre de films avant de savoir lire. Et puis il n'y avait pas que le cinéma, il y a eu, lié à ma génération, le jazz dans les années 30. Bon, le jazz, ça ne me disait rien quand j'avais 4-5 ans. Mais à 12-13 ans, c'était la musique contemporaine, c'était le jazz. Je me rappelle avoir vu Duke Ellington à sa première apparition à Paris. C'était peut-être salle Pleyel. C'était une très grande salle et je pense que c'était en 33 ou 34. J'avais 11 ans, 12 ans. Et c'était un événement considérable. J'ai écouté ça près de 10 ans avant d'écouter de la musique classique. En même temps que j'apprenais à taper sur un piano. Mais bon, je tapais du Bach et du Chopin, mais je l'écoutais pas, c'était complètement mécanique. La musique que j'écoutais, c'était le jazz. Alors le jazz et le cinéma sont liés pour moi à mon enfance, à mon adolescence, je peux dire antérieurement à la littérature. La littérature, à cette époque-là, c'était les livres qu'il fallait lire en classe, pour le secondaire. Et c'était très rebutant de la façon dont c'était fait. Et c'est tout juste, on ne m'a pas dégoûté de la lecture complètement dans le secondaire. Tellement c'était archaïque, thématique et ennuyé au possible. Rédaction, dissertation, découpage du texte. C'était du genre le sentiment de la nature chez un tel, le sentiment de ceci chez tel autre. Parlez-moi de... Non, c'était pas possible. C'était comme si on avait associé pour moi la littérature et l'art en général à l'ennui, à l'emmerdement, carrément. Et il a fallu des années plus tard pour que je sorte de là et que je puisse lire pour y chercher un certain plaisir. Mais c'est venu très tard, 18 ans, 20 ans. Il a fallu effacer cette horrible période de l'enseignement secondaire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu moins noir, mais bon, enfin, c'était comme ça à l'époque, pas seulement pour moi, hein, vraiment pour tout le monde. De même que l'enseignement des langues était abominablement nul. J'étais premier en anglais par écrit, j'étais incapable de demander ma rue si je m'étais trouvé à Londres, mais ça, je crois que ça n'a pas beaucoup changé non plus. Non, même aujourd'hui, là, j'ai suivi ma fille dans le primaire et le secondaire. Elle écrit très bien en anglais, en allemand, mais pour parler, c'est pas ça du tout. Et c'est bien un peu comme dans les années 30. Hein. Je crois qu'on n'est pas doué pour l'enseignement des langues en France.
Et sinon, quant au lien maintenu, enfin au cours des années, après cette période, avec le cinéma, il me semble que j'ai quelque chose de parallèle avec le fait que vous ayez continué à lire, vous en parlez, je crois qu'il y a des allusions dans les liens d'espace, à des livres, si vous voulez, de littérature qu'on appelle populaire. Je pense qu'il faut vous parler de Gaston Leroux, du mystère de la chambre jaune, du parfum de la dame en noir, et c'est plutôt des références, ou de Stevenson, il me semble, enfin, c'est plutôt des références pour un écrivain, pas toujours évidente. Est-ce que vous pensez pas qu'entre ces lectures et le cinéma, il y a quelque chose qui a passé ? Faites par exemple que vous ayez écrit sur Feuillade aussi.
Alors ça, c'est très probable, oui. Mes seules lectures d'enfance ont été Jules Verne et cet autre auteur de grands romans d'aventure qui n'est peut-être plus connu aujourd'hui, qui s'appelle Paul d'Ivoire. Et c'était à travers les grandes éditions dorées sur tranche avec des gravures magnifiques. Et bon, ça, c'est ce que j'ai aimé lire dans l'enfance. Curieusement, les Gaston Leroux, Maurice Leblanc, ces choses-là, c'est venu plus tard. C'est venu nettement plus tard, en même temps que mes premières lectures, véritable d'œuvre dite de littérature sérieuse, c'est-à-dire Balzac, Flaubert, des livres de ce genre. Alors, Jules Verne m'a extraordinairement marqué. Il y a sûrement un lien entre le style d'aventure de ces livres-là et la plupart des films que j'allais voir et qui me plaisaient pour une certaine façon de raconter justement les histoires d'aventure ou les histoires policières. Et maintenant, je fais peut-être un résumé de tout cela assez inexact, parce qu'évidemment, j'ai pas pris de notes à l'époque. Quand on n'a pas de notes, quand on n'a pas de répertoire avec des dates précises, 50 ou 60 ans après, on a tendance à tout mélanger et à faire des erreurs énormes. À partir d'un certain moment, j'ai tout noté sur des cahiers. Tous les livres que je lisais, tous les films que je voyais, de façon à simplement pouvoir m'y retrouver. La mémoire est très défaillante dans l'ensemble. Je voulais pouvoir, voyant tel film à la cinémathèque et ayant une vague impression de déjà vu, retrouver exactement l'année à laquelle j'avais déjà vu ce film pour pouvoir comparer. Et bon. Mais cela, évidemment, quand j'avais 10 ans, je ne le faisais pas. Alors peut-être que j'ai commencé à lire Gaston Leroux et les autres plus tôt que je ne le dis. Mais je ne pense pas, finalement. Quant à Stevenson, c'est venu nettement plus tard, 10 ans après Paul Dubois, Jules Verne. Mais il n'y avait pas que Paul Dubois et Jules Verne, il y avait Jack London, par exemple. Et tous les bouquins de la petite collection verte cartonnée de Hachette. Il y avait la grande collection verte où se trouvaient les Jules Verne, et puis, chez Hachette, et puis une collection de plus petit format dans laquelle se trouvaient L'île au trésor, Les patins d'argent, quelques Jules Verne aussi, des livres comme ça. Et puis Erckmann Chatrian, mais il y avait des choses relativement neuves, d'autres déjà éprouvées par deux ou trois générations, et puis d'autres plus anciennes qui avaient recouvert plusieurs générations et qui formaient cette espèce de fond commun de lecture dans lequel, finalement, le nom des auteurs n'a plus tellement d'importance. Ce qui est important, c'est la teinture qu'on a reçue en matière de narration, de récit, et des rapports du récit avec la société, les rapports du récit avec l'histoire contemporaine. C'est ça qui est important. Peu importe que telle aventure ait été écrite par Paul Dubois, par Jules Verne ou un autre. D'ailleurs, il m'arrive de les mélanger. Mélanger des titres et les noms d'auteurs. Il ne faut pas trop s'attacher à ça. Les événements importants et ce qui compte dans ce qu'on appelle un peu, d'une façon un peu galvaudée aujourd'hui, la culture, c'est le rapport de cette énorme masse de textes avec l'histoire, avec sa propre histoire, l'histoire de soi-même en tant qu'individu ou que sujet, comme disent les psychanalystes. Ensuite, le rapport de ces textes-là, de cet ensemble énorme de récits avec la famille, et puis la société, et puis l'ensemble de l'ère culturelle dans laquelle on vit. C'est ça qui est important, plus que les titres même et les noms d'auteurs. Alors peu importe, on n'est pas à 2 ans près. En gros, c'est ce genre de littérature qui m'a marqué, primitivement, ce genre de film. Et puis, plus tard, alors, ce genre de musique aussi, comme je disais. Et plus tard, ce qu'il est convenu d'appeler la grande littérature, la grande musique. Bon, alors ça, c'est autre chose, mais pour laquelle j'avais déjà pris du recul. Et j'étais assez grand pour distinguer ce qui pouvait me passionner de ce que je sentais quand même très éloigné de moi. Mais j'avais échappé à ce moment-là, à 18-20 ans, à cet énorme tunnel d'ennui, très rébarbatif qu'était l'enseignement secondaire.
Justement, avec cette culture, ce fond commun, c'est quand même incroyable, vos textes sur le cinéma. Parce que ce sont des textes qui datent des années 60, pour la plupart, enfin ceux que j'ai lus dans Souvenir Écran, et qui semblent discerner des choses qui sont, à mon avis, effectivement très importantes, mais une variété et une intelligence de discernement, je trouve, qui est étonnante. C'est-à-dire que, bon, vous signalez des films qu'on a complètement oubliés, là vous parliez de Jules Verne, je pense aux Aventures Fantastiques de Céline, qui est un film d'ailleurs que moi je n'ai pas vu, et dont vous soulignez, même y compris une certaine supériorité quant à l'œuvre de Jules Verne, en tout cas.
J'ai le souvenir d'un film magnifique pour l'image et le son, d'une unité d'invention plastique extraordinaire. Mais tout à fait dans le style de l'école tchèque, très réputée à l'époque et peut-être encore aujourd'hui. Mais en tout cas très frappant quant à la recréation de l'univers de Jules Verne. Alors je ne me rappelle plus ce que j'avais pu écrire sur ce film, je crois que c'était un tout petit texte.
Oui. Un texte qui attire l'attention sur ce
mais...
Et qui, si je m'en rappelle bien, vous signalez qu'il y a des décors réels et des choses en vue réelle et des choses en animation.
Ah oui, je crois que les personnages étaient de vrais personnages, en chair et en os.
Très souvent, inspirés des gravures. D'ailleurs, vous souvenez à un moment donné, le côté, il y a comme des traits, si vous voulez, oui.
Tous les fonds étaient inspirés des gravures authentiques des livres des premières éditions des années 1880, je pense. Et puis les personnages étaient de vrais personnages. Et entre les deux, il y avait tout un système de décors tout à fait extraordinaire qui faisait que c'est une grande réussite. C'était une grande réussite pour moi. Une aussi grande réussite que King Kong. Ben, le King Kong de 1931, où il y a toutes sortes de trucages extraordinaires que certains, dont on n'a pas réussi, je crois, à retrouver exactement les mécanismes, même beaucoup plus tard, parce que les studios ont été détruits. J'avais lu beaucoup de choses sur King Kong pour faire un article dans les cahiers, et il y avait encore des réalisations de plans qui étaient restés mystérieux, puisque le monstre n'avait jamais existé, grandeur nature. Je veux dire, fabriqué en studio. Tout était fait sur un trucage de proportion. Il y avait deux éléments de King Kong, grandeur nature par rapport à la fiction, c'est-à-dire peut-être, je ne sais pas, 25-30 mètres de haut, mais le corps lui-même n'avait jamais été construit comme cela. Il n'y avait pas de trucage électronique, bien sûr, mais lorsqu'on voyait en gros plan, une partie du corps, c'était quelque chose de beaucoup plus réduit. Et on avait l'impression que c'était énorme. Mais j'avais noté que c'était extraordinaire que la stature véritable de King Kong n'avait jamais existé que dans l'imagination des spectateurs. Puisque même en studio, on n'avait jamais construit de King Kong véritable. Il n'avait eu qu'un corps morcelé. Et ce morcellement, la cervelle du spectateur le rapportait dans chaque plan à l'environnement. Et on induisait un animal qui avait entre 25 et 30 mètres de haut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout à fait extraordinaire comme réussite. Bon, alors comme les studios avaient brûlé ou avaient été dispersés, qu'on n'avait pas retrouvé les différentes parties du corps selon différentes échelles qui avaient été fabriquées, et que peut-être deux ou trois des membres de l'équipe étaient morts. Il y avait encore, à l'époque, là, quand j'avais fait cet article, je crois que c'est à la fin des années 60, il y avait encore des choses qui restaient mystérieuses dans le tournage du King Kong. Bon, ben, je voulais dire que c'était un peu la même idée esthétique que dans le film de Harold Seyman, jouer sur différentes échelles et sur différents étagements des plans, de façon à communiquer une vérité de la fiction complètement, par des moyens complètement artificiels, plus forte que si elle avait été tournée uniquement avec de vrais acteurs et des décors naturels. Mais je crois que c'est un film qui avait frappé plus d'un à l'époque. Je crois me souvenir que René avait une grande admiration pour ses aventures fantastiques. Et Rivette peut-être aussi.
René, c'est quelqu'un qui a un peu, disons, au départ, la même culture.
Oui.
C'est quelqu'un de notre génération.
Alors, quand j'ai vu beaucoup plus tard un film comme Providence, j'ai eu l'impression que dans une ou deux séquences, il avait fait la même chose que Harold Seyman. Notamment une séquence au bord de la mer, où il y a à un moment donné, dans le jeu des vagues, une espèce de rouleau qui tourne pour simuler des vagues et qui crée une impression très étrange et très... très très gênante. On ne sait plus du tout où on en est. On n'est pas sur une vraie plage, c'est pas la vraie mer, mais quand même ça y ressemble. Et il y avait là une astuce de trucage selon l'étagement des plans qui, maintenant que j'y repense, était assez proche de celle de ces genres-là, pas seulement de Zeman, mais de l'école de Prague, dont j'avais vu beaucoup, beaucoup de films d'animation et de dessins animés.
Il me semble ce que vous dites, c'est quant à une espèce de disjonction comme ça entre la figure humaine et l'environnement, que c'est quelque chose qui se retrouve, je me trompe, dans vos romans. Je pense en particulier à Été indien, où le protagoniste est souvent, par exemple, dans une voiture, dans un mobile. Donc lui, son corps est tout à fait stable, tandis qu'autour de lui, effectivement, l'environnement ne cesse de défiler par les vitres et capté par des miroirs. Ou par exemple, dans la mise en scène, où le personnage a beau arpenter un espace, donc on pourrait supposer que celui-ci soit stable, en fait cet espace ne cesse de lui envoyer comme des signaux qui lui rappellent le travail d'arpentage d'un de ses prédécesseurs. qui serait mort dans cet espace. Enfin...
Je me définis comme un écrivain qui essaie de restituer avant tout des sensations, et qui essaie de restituer ce qui se passe dans la perception, c'est-à-dire une totalité très complexe et très riche de phénomènes immédiats, notamment en ce qui concerne l'espace. Et une des raisons peut-être pour lesquelles j'ai écrit des livres, c'est pour essayer de comprendre justement ce qui arrive quand je me déplace dans l'espace ou dans les différents espaces. Et une des premières choses qui m'est apparue, c'est que j'avais l'impression que l'espace n'était jamais homogène. Et or, l'espace comme milieu homogène est un des fondements de notre idéologie, il me semble. L'espace est homogène et une des dimensions de l'espace s'appelle le temps, qui est comme une sorte de flux continu qui anime cet espace ou le traverse, quelque chose comme cela. Alors d'une part, l'espace me semblait le plus souvent hétérogène, c'est-à-dire ne pas avoir les mêmes qualités en tout point, ce qui est quand même une impression bizarre. En tout cas, une impression que je notais, quant à moi, comme contraire à ce que je lisais un peu partout. Et en plus, quelque chose qui semblait n'avoir été relevé ou noté nulle part. Et en plus, il y avait cette histoire du temps qui était censé couler comme un fluide à l'intérieur d'un cadre fixe. Bon, tout cela allait, me semblait-il, à l'encontre de ce que j'éprouvais, quel que soit l'endroit où je me trouvais. Alors peut-être que c'est un ensemble d'impressions qui m'ont frappé quand j'étais tout gosse. Ça, je ne pourrais plus jamais le retrouver exactement. Ou alors, probablement pendant l'adolescence, et puis plus tard, j'ai dû commencer à réfléchir un peu à cet ensemble de réactions, carrément une façon de vivre, quotidiennement, partout, et à penser que, n'arrivant à rien par la réflexion, par le discours, par l'analyse, n'étant peut-être pas de tournure d'esprit très discursif ou philosophique, la seule façon était peut-être de prendre des notes et puis de gribouiller noir sur blanc quelque chose qui, j'allais dire, rendrait compte de ces impressions. Mais ce n'est pas rendre compte, c'est... Je me rendais compte également que, dans la mesure où je prenais des notes et traçais des mots sur une page, je changeais mon rapport à l'espace. Et je retrouvais ça beaucoup plus tard, expliqué et justifié scientifiquement par Heisenberg et d'autres. Les instruments de mesure modifient la chose à mesurer à partir, dans une certaine catégorie de mesure. Alors c'est la même chose avec le langage. Vous cherchez des mots pour, pensez-vous, exprimer, comme on dit vulgairement, ou rendre compte de quelque chose. Et vous vous apercevez à un moment donné que les mots que vous avez choisis, là, de façon un peu instinctive, spontanée, modifient même ce que vous alliez dire, ou ce que vous imaginiez vouloir dire. Alors il y a cette interaction constante qui fait que la littérature n'est pas vraiment un moyen d'expression, mais je dirais plutôt un moyen d'impression. D'abord, on imprime quelque chose là où il n'y avait rien, et au sens propre. Ensuite, c'est fait pour imprimer quelque chose dans la tête du lecteur, quelque chose à laquelle le lecteur n'avait pas pensé, peut-être, et qui va modeler sa façon de voir le monde. Donc, c'est peut-être plus la littérature, ou la musique, hein, ou la peinture, le cinéma, la construction de modèles, dans l'ensemble de formes qui vont, pour celui qui est en train de le faire, organiser ses idées et mettre un peu d'ordre dans tout cela, mais aussi proposer des modèles et alors les proposer à d'autres, plus ou moins nombreux selon les candidatures à la lecture. Et... Bon, donc dès qu'on commence à écrire, il y a le fait que les mots qu'on a tracés modifie déjà les impressions d'autrefois, enfin je veux dire antérieures. Bon, il faut faire avec ça parce qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir autrement. Le langage n'est pas transparent, il n'y a pas un langage qui s'applique au monde. Il n'y a pas le monde là autour de moi, puis les autres et tout, et puis un langage qui décrirait le monde. La description, ça n'existe pas, c'est un faux problème. D'abord, il n'y a aucune commune mesure entre un objet qui s'appelle un micro et un magnétophone, et les deux mots micro et magnétophone. J'ai beau multiplier les mots, les ajouter, en faire une page, 10 pages, 50 pages, je n'arriverai pas, par les mots, à donner une idée juste de micro et de magnétophone. Le langage peut seulement faire allusion aux choses, faire allusion au monde. Il ne peut pas vraiment le décrire. À plus forte raison, il ne peut pas vraiment décrire des impressions, des sensations, des perceptions, des souvenirs, etc., des fantasmes. On ne peut que faire allusion à ça. Et il me semble que si on a vu ça clairement, enfin clairement, un peu, de façon un peu moins opaque que d'habitude, on a déjà fait un pas. Mais on peut remarquer que la plupart des gens qui, malmenés qu'ils sont par l'idéologie scolaire, enfin l'idéologie du secondaire et maintenant celle des médias qui propagent cela tous azimuts massivement, ne sont pas préparés à déblayer le terrain de cette façon-là. Alors on continue à lire des livres comme si la littérature pouvait décrire le monde et rendre compte d'impressions ou exprimer la pensée ou les sentiments d'un soi-disant auteur. Bon, pour moi c'est pas ça du tout, j'ai réglé le problème depuis très longtemps quand j'ai commencé à écrire. Mais c'est toujours cela pour l'immense majorité des lecteurs et malheureusement pour la critique, qui avait fait quelques progrès dans les années 50 et 60, mais qui a vite reperdu tout ce qu'elle avait acquis. Et on voit dans la critique littéraire et autres sortir aujourd'hui les mêmes années qu'autrefois sur la littérature comme moyen d'expression, sur la transparence du langage, sur la beauté de la description, des choses comme ça dont on peut se contenter comme approximation à condition d'être bien décidé à aller plus loin. Mais bon, enfin, ça c'est un problème très vaste, pédagogique presque, dans lequel on est en pleine régression depuis un quart de siècle.
Cette question du temps, en tant que le temps non défini, le temps pour moi n'est pas le même que pour vous, et cet éclatement du temps, l'extension, voire même le rétrécissement du temps.
Non, mais ce que je dis là n'est pas du tout neuf. Hein. Je pense que le premier type qui, il y a 5000 ans, a tracé des gribouillis sur la pierre en enfonçant des coins en Mésopotamie a compris assez rapidement que les c'était pas des hiéroglyphes à l'époque, mais c'était avant les hiéroglyphes, enfin les dessins qu'il faisait là, ses traits et ses coins, inventaient pour lui-même une forme du monde tout autant qu'il l'exprimait prétendument. Bon, tous les écrivains l'ont dit, ça. Mais bizarrement, les gens ne veulent pas le voir. Quand ils le lisent, ils tournent la page, ça les embête. Tout le monde l'a dit, les Grecs, et puis plus proche de nous, des Cervantes, Goethe, Flaubert, tout le monde l'a dit. Bien entendu, Kafka, Borges, Joyce et bien d'autres. Cette espèce d'espace bizarre dans lequel, parti pour le dessiner ou le décrire, tout de suite on commence à l'informer, comme disent les linguistes, à lui donner une autre forme. Alors on ne sait pas quand ça commence et comment ça finit, mais c'est à l'intérieur de ce processus très compliqué d'aller-retour, de feedback, comme on dit en cybernétique, que les choses de l'écriture se passent. L'écriture au sens très large. On peut parler d'écriture dans le film, dans la musique, en littérature. Bon, j'étais parti de tout cela pour dire que pour essayer de mettre de l'ordre dans ces idées, il faut faire des listes, il faut faire des répertoires, il faut noter les dates, il faut noter les titres, etc. Et bon, comme cela, plus tard, on peut essayer de retracer des itinéraires, de voir par quelles étapes on est passé, c'est-à-dire à quel système de grille ou de lecture on s'est voué selon les âges, autrement dit, tous ces relais plus ou moins flous, plus ou moins efficaces, qu'on a épousé pour lire des livres, voir des films, écouter des musiques. Alors à partir d'un certain moment, je me suis trouvé avec des répertoires assez importants. Quand j'ai découvert la Cinémathèque, j'y suis allé systématiquement, et parfois, quand il y avait des rétrospectives pour tous les soirs pendant une semaine ou deux, les trois séances, alors là, je retrouve dans mes cahiers des pages entières de feuillettes, par exemple, hein, avec la date précise où j'ai vu tel ou tel épisode de telle ou telle série, la date où Feuillade avait filmé cette série, Barabbas, par exemple, qui m'a laissé un souvenir extraordinaire. Et puis, comme ça, je peux éventuellement comparer avec d'autres films de la même époque, américains ou italiens, ou anglais ou allemand. Et alors quand je me suis mis à faire des petites notes critiques, plus tard, ça m'a permis d'éviter certaines bêtises, notamment de comparer, en croyant que c'était à peu près de la même année, des films qui avaient été tournés à 15 ans l'un de l'autre. Hein, ça arrive souvent, des choses-là. On a tendance à situer l'œuvre, par exemple, de Fritz Lang, plus tard qu'elle a commencé en réalité, ou celle de Murnau plutôt, le contraire. Et puis, bon, alors avec ce genre de précision, on peut vraiment comparer non seulement les dates, mais les démarches, les esthétiques. Ça, c'est un mot qu'on n'emploie plus beaucoup, esthétique. Hein. On dirait que c'est passé à la moulinette médiatique, l'esthétique. Et pourtant, on ne peut pas tourner un plan de film ou écrire une page de livre ou trois mesures de musique sans qu'on plonge dans un domaine de forme qui s'appelle l'esthétique. Et c'est curieux que le mot soit passé à la trappe. Alors j'ai commencé à écrire des petits textes critiques pour avoir la carte de critique, parce que j'étais trop pauvre pour le cinéma. Enfin, bref, je n'avais pas d'argent pour le cinéma. Je commençais à écrire à cette époque-là, j'étais vraiment sans dessous. J'étais logé dans une chambre de bonne par un ami compatissant ou amoureux des lettres. Alors j'avais imaginé d'avoir une carte de critique pour aller au cinéma gratuitement. Et ça a marché après quelques critiques qui étaient à la NRF. Je crois que j'ai publié mes premières critiques avant mon premier livre, pendant que j'écrivais mon premier livre. Et c'est Dominique Horry et Jean Paulhan qui ont accepté mes premières critiques. Voilà. Tous les mercredis, j'allais voir Jean Paulhan dans son bureau. C'est le jour où il recevait ses collaborateurs, ses amis. On prenait un porto et je lui apportais mon papier. Enfin, un papier mensuel, mais on en parlait. Ollier, qu'est-ce que vous avez vu cette semaine? Ça l'intéressait beaucoup, Paulhan. Marcel Arlan, qui était en face de lui, et Dominique Horry, qui était passionné de cinéma également. Et on parlait de cela. Alors, ça amusait Paulhan, tout ce que je voyais, y compris des polars américains. Il aimait beaucoup ça. Enfin, il aimait ça comme Borges aimait Sternberg. Enfin, je suppose que Borges allait voir tous les polars américains doublés à Buenos Aires, parce que de toute façon, c'était très drôle. Mais Marcel Arlan, lui, il aimait moins ça. Alors un jour, je lui ai apporté... Bon, 3-4 pages, c'était pas bien méchant, sur ce qui est peut-être, je crois, le deuxième film de Kubrick, qui s'appelait Quelle est-ce, le baiser du tueur, dans lequel il y avait une bizarre séquence inversée, où le blanc était noir. Et il n'était pas content, Marcel Arlan. Et il m'avait dit, mais enfin, Ollier, pourquoi est-ce que vous ne faites pas quelque chose sur les dimanches de Ville d'Avray? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que c'était que les dimanches de Ville d'Avray. Ça a eu un grand succès, oui. Mais c'est exactement le genre de truc que je trouve abominable. Et que je ne sais même pas si j'avais été le voir, mais c'est épouvantable. Enfin, c'est... Oui. Enfin, voilà. Et à une époque, je crois, Paulhan était malade, n'était plus là. Et Marcel Arlan avait... Après correction des épreuves, complètement charcuté, une longue critique que j'avais faite d'un film de Frank Hanamer qui m'avait beaucoup intéressé, et qui était le candidat manchou. Et il avait enlevé une page sur deux, quoi, carrément. Alors, j'avais pas trouvé ça correct comme pratique. Avant de le faire imprimer, oui, il m'aurait dit, c'est beaucoup trop long. J'aurais dit, bon, je vais couper là-dedans. Mais après correction des épreuves, alors j'avais plaqué la NRF comme ça, du jour au lendemain, et j'avais été récupéré par le Mercure de France. J'avais fait des critiques dans le Mercure de France pendant un an ou deux, et puis aussi dans la revue critique, où il y a toujours quelqu'un de remarquable, qui s'appelle Jean Piel, et qui voulait des ensembles, comment dirais-je, thématiques, bien que je n'aime pas beaucoup ce mot-là. Et j'avais fait un ensemble, selon ses désirs, sur quatre films qui m'avaient semblé parler de la même chose. Le grand malaise ou le grand vertige de l'époque. Il y avait L'Ange exterminateur, L'Éclipse d'Antonioni, Les oiseaux, et puis un quatrième peut-être que je me rappelle plus.
Silence,
peut-être. Voilà. Et alors, j'avais continué à faire ces critiques-là parce que ils me payaient le cinéma. Hein, je leur faisais une facture à la fin du mois. Et ils me payaient le cinéma et en plus, royalement, pour mes pages imprimées en caractère, il fallait avoir une loupe pour pouvoir les lire. Je crois que c'était 6 francs la page. Mais une page imprimée faisait 3 de mes pages, alors. Il y avait de quoi payer l'ouvreuse avec cela. Mais je n'avais pas encore la carte de critique. La carte de critique est venue, alors, officiellement, avec les cahiers du cinéma. Là, j'ai eu tout de suite une vraie carte de critique, et avec laquelle je descendais les Champs-Élysées tous les après-midi. Je voyais 3-4 films, un jusqu'au bout parce que je l'aimais bien, et puis les autres, je voyais 10 minutes, au début, à la fin. Truc qui n'avait pas d'intérêt, mais pour moi. Et je descendais les Champs-Élysées, et après j'allais dans le bureau des cahiers, où on se retrouvait tous, avec nos impressions toutes fraîches. Et la règle, c'était celui qui s'est passionné pour un film, va parler du film. Alors, mais au point, c'était bon comme principe, et ça pouvait être vicieux aussi. Parce que si vraiment j'étais arrivé en disant « Les dimanches de Ville d'Avray, je trouve ça extraordinaire », Romer m'aurait dit « Faites la critique, sans discuter. Hein. » Peut-être que j'exagère la rétrospective. Il aurait peut-être fait la grimace quand même, mais il serait donné un mal de chien pour m'expliquer que son principe était bon en soi. Il m'aurait fait tout un discours, parce que c'est quelqu'un de très poli et très correct, et qui en plus est un... comment dit-on, un théoricien, dans son âme et conscience. Enfin, tout ça était très sympathique, et puis le soir, cinémathèque.
On peut partir, je pense, des deux textes inoculés, quasiment les derniers que vous avez écrits. C'est le petit film modèle, et ce texte qui s'appelle Projet de lettre à Jean Ricardo, qui sont plutôt des textes de la fin des années 60. Souvent, les petits films modèles, j'ai l'impression que vous partez de deux expériences un peu matrices. Tout à l'heure, qui était à propos de la ruée vers l'or, et vous dégagez ce que vous appelez, disons, une espèce de notion qui serait celle du drame spatial pur. C'est-à-dire que dans certains films, il n'y a pas de lieu qui serait comme un pur contenant, un réceptacle d'une action, mais ce serait plutôt, disons, les lignes de force du lieu, de l'espace, qui dicteraient leur inflexion à l'action. Disons, on dirait que ce serait plutôt, pour employer un peu le vocabulaire que vous avez utilisé tout à l'heure, ce serait pas... face à un espace quantitatif, mesurable, je dirais parcourable, l'espace finalement qu'on vit de la vie quotidienne, mais plutôt une certaine forme de qualité de l'espace. Finalement pas un espace homogène, mais un espace hétérogène. Et il me semble que c'est quelque chose même qui, au-delà de certains films que vous pouvez signaler, est quelque chose qu'on peut même trouver dans le cinéma, enfin, en tant qu'il est dans le bon cinéma. On a souvent dit que le cinéma est plutôt montré peut-être les objets ou la réalité telle qu'elle était. Mais justement, est-ce que dans le jeu de l'espace, dès qu'il y a morcellement, c'est-à-dire dans le morcellement des plans, et tout un jeu de distance, de cache, de l'heure peut s'établir dans l'espace. On dirait que l'espace se construit plan à plan.
Je pense que c'est la vision de certains films où il me semblait que des choses curieuses se déroulaient dans les rapports entre les personnages et l'espace où ils évoluaient. Il me semble que c'est la vision de ces films répétés qui m'a mené sur le chemin de sonder pour moi alors cette chose dont je parlais tout à l'heure, cette somme d'impressions bizarres que j'avais moi-même en déambulant dans l'espace que vous appelez quotidien. Je me suis... peut-être qu'un jour, il y a eu quelque chose comme une révélation, une illumination. Et en regardant un film, je me suis dit, mais bon sang, mais c'est ça au quotidien, c'est ça que j'éprouve au quotidien. Alors ces choses que je voyais dans la mise en scène, au vrai sens du terme, au sens profond du terme, c'est-à-dire la manière qu'avait un tel ou un tel de placer un acteur à tel endroit du décor, ensuite de placer sa caméra à telle hauteur ou à telle distance pour le filmer, et puis ce type-là à telle distance des principaux objets du décor, et puis d'où venait la lumière et la couleur, etc. Tout cela, probablement, petit à petit, a nourri mon idée que l'espace n'était pas homogène. Ou alors, cette idée, cette impression de la vie courante m'est venue des premiers films que j'avais vus, par le jeu du clair-obscur, à Fritz Lang, par exemple, où véritablement, le personnage principal apparaît en pleine lumière, souvent le projecteur carrément braqué sur lui et tout le reste du décor dans la pénombre. C'est peut-être des choses comme ça qui, dès mon plus jeune âge, m'ont converti à l'idée qu'il y avait dans l'espace des choses beaucoup plus complexes qu'on ne disait en réalité, ou tout au moins qu'on me l'expliquait plus tard, à l'école et dans la famille ou dans la plupart des livres ou ailleurs. Et puis, c'était flagrant, bien sûr, chez des cinéastes comme Hitchcock, où il y a tout un jeu aussi sur le naturel et l'artificiel, enfin, ce qu'on oppose comme ça d'ordinaire, ou sur l'intérieur et l'extérieur, ou ce qu'on a l'habitude d'opposer de cette manière-là. Bon, je crois que tout mon effort d'écriture depuis 30 ans et plus a été précisément d'effacer ce genre d'opposition, de montrer qu'elles étaient peut-être utiles à un moment donné dans l'histoire, mais que dans notre temps moderne, surtout celui d'après la Seconde Guerre mondiale, ces oppositions avaient tendance à être caduques et à s'effacer. Et dans ce que j'écris depuis une vingtaine d'années, tout est fait sur l'abolition d'oppositions, par exemple, entre intérieur et extérieur, ou entre temps et espace, ou entre conscience et inconscience. Toutes ces oppositions idéologiques sur lesquelles notre enseignement, notre culture et bien entendu l'ensemble massif des médias est toujours fondé.
Il y a très souvent cette idée même des débuts du cinéma, finalement, vous parliez de Eisenberg tout à l'heure, mais que le cinéma est finalement contemporain de changements qui sont intervenus dans la physique de Einstein, enfin d'Evertov. Ouais. Cette idée-là, quand il dit je peux filmer le contre-champ à Moscou et puis le champ, je peux le filmer à Los Angeles, et il y a une abolition de la distance, enfin, vitesse frénétique ou fulgurante, où Epstein a ces idées-là. Ouais. Et même chez quelqu'un qui filme plutôt en plan très, très long, sans trop de morcellement comme Dreyer, il dit. Ce qu'il cherche à obtenir, c'est une quatrième ou cinquième dimension dans l'image, qui dit qu'il y a la dimension de l'esprit. Donc on pourrait croire que c'est plutôt quelque chose de religieux. Et il dit, mais non, pour faire ça, je me base, j'ai lu Einstein.
Il argumente comme ça à propos d'Ordet.
Ordet, oui. Où il y a plutôt une image plane et des plans très longs, mais le passage d'un plan à l'autre est particulièrement violent. Il y a presque.
Oui, mais c'est surtout sensible dans le plan, et dans le plan qui dure. C'est probablement pour cela qu'à un moment, je me suis particulièrement intéressé par les tournages en plan très long.
Rouge
et Skolimowski m'avait passionné avec son exercice de style. C'était son diplôme de sortie d'école à Lodz. Oui, c'est extraordinaire. C'était à la fois un exercice de style et quelque chose de très fort. Mais chez Dreyer, c'est très fascinant. Et chez Bresson, il n'y a pas jamais de plan aussi long chez Bresson que je crois que chez Dreyer, mais c'est très sensible chez Bresson. Il y a l'espace que vous diriez quotidien, et à partir d'un certain moment, ça se trouble. Et on sent qu'il y a un autre espace dans celui qu'on est en train de regarder. Ou alors, comme on dirait aussi, une autre dimension du temps. Mais j'aime pas parler comme ça, parce que le temps n'est pas pour moi une dimension de l'espace. Il n'y a pas la largeur, longueur, profondeur et temps. Le temps et l'espace, c'est la même chose. Et qu'on peut exprimer de deux façons. On peut dire le temps à la place de l'espace ou l'espace à la place du temps. À un moment donné, c'est plus, un peu plus temps qu'espace. À d'autres moments, ça serait plus espace que temps. Mais en tout cas, le temps n'est surtout pas une dimension de l'espace. C'est un élément constitutif et qu'on peut rendre sensible par l'écriture, par le langage, l'exercice du langage, par la photographie, par le filmage ou par la musique. Mais quelqu'un de peut-être un très bon lecteur, un très bon auditeur, un très bon spectateur, sentir toutes ces choses-là en regardant un film, en écoutant une musique ou en lisant un livre, et ne pas en tirer de conséquences pour sa vie courante. C'est une chose qui m'a toujours frappé. Il est bouleversé par Murnau ou Hitchcock, ou Dreyer, ou Bresson, et puis il est bouleversé par Kafka ou Flaubert, ou Borges ou Faulkner, et puis ça ne déteint absolument pas sur sa façon de percevoir les choses chez lui, ou avec sa femme, ou avec ses enfants, ou dans sa famille. Il devrait y avoir une action sur son quotidien, puisque ceux qui ont fait ces choses qu'il admirait et qui l'ont passionné, eux, jouaient l'interaction jusqu'aux limites. Hein. Et bon, enfin, ça c'est un autre problème. Ou alors, ça ne peut jamais frapper qu'une petite minorité de spectateurs qui en tirent les conclusions sur leur vie quotidienne et qui sont profondément touchés et modifiés dans leur vie quotidienne. De toute façon, ça pose un problème de lecture au sens très large, qu'il s'agisse du film ou du livre. Ce qui fait que souvent on regarde un film ou on lit un livre avec une grille de vision ou de lecture qui n'est pas la bonne. Si vous regardez un Dreyer comme avec la grille de lecture que vous avez pour regarder un Lelouch, vous passez complètement à côté, mais c'est ce que font la plupart des gens. En littérature, ça donne le lecteur, le brave lecteur de bonne foi, de bonne volonté, qui lit par exemple un de mes bouquins comme si c'était un roman psychologique. Alors, il n'est pas content, il est frustré parce qu'il n'y a pas d'analyse psychologique, il n'y a pas de personnage comme il a l'habitude d'en lire chez Malle et Joris ou des livres de ce genre. Et, alors il ne voit pas et il en conclut que ça rime à rien, ou ça n'a ni queue ni tête. Ou... Bon, ça c'est un grand problème. Il faut être disponible. C'est pas toujours facile. Hein.
À écrire, est-ce que vous connaissiez déjà d'autres critiques de cinéma, est-ce que vous en aviez lu, et vous avez commencé à écrire au moment où émerge la nouvelle vague, est-ce que par exemple vous connaissiez les écrits de Bazin ou les écrits de Rivette ou de Truffaut?
Oui, j'ai lu Bazin bien sûr, mais je me rappelle plus à quelle époque. J'étais absent de France de 50 à 56, je crois, et durant cette époque-là, je n'avais pratiquement pas vu de film, ni lu sur le cinéma. Alors peut-être que j'ai commencé à lire les cahiers du cinéma en 57 ou 58, mais en gros, c'était à l'époque où j'ai commencé à revenir à Paris, à voir beaucoup de films et à faire la soudure avec ce que j'avais vu entre 45 et 50. Et par la même occasion, à lire différents critiques. Bon, je crois que j'en avais pas lu beaucoup.
Hein. Parce que je pense à la notion phare à l'époque, qui était pour la la notion de spécificité du cinéma qui a été définie, regroupée sous un mot qui est le mot de mise en scène. Or, vous me parliez tout à l'heure de mise en scène des événements, quelque chose qui serait un lieu commun à la littérature et au cinéma, et votre premier roman s'appelle La mise en scène. C'est pour ça que ça me titillait. Je sais pas si c'était un hasard.
Oui, on mettait l'accent au cahier sur la mise en scène et sur la notion d'auteur. Mais il faut voir ça dans la perspective historique. La notion d'auteur était indispensable à l'époque pour réagir contre une critique qui parlait tout sauf du film comme le travail d'un auteur. Bon, cela dit, c'est pas uniquement ça, bien sûr. Et on a fait beaucoup d'erreurs, notamment avec le cinéma américain, où très souvent, et la plupart du temps, dans l'immense majorité des cas, à Hollywood, il n'y avait pas d'auteur. Hein. C'était les producteurs qui faisaient le film et l'équipe, avec peut-être une vingtaine de types qui arrivaient à dominer les problèmes, des gens comme Walsh, et encore pas toujours, Fritz Lang, et encore pas toujours. Je me rappelle avoir entendu Fritz Lang, dans une de ses dernières apparitions à Chaillot, expliquer que pour un film qui s'appelle, je crois, Cape and Dagger, Cloak and Dagger, on lui avait enlevé 40 minutes, enfin, que la notion d'auteur, en ce qui concerne lui, très célèbre à cette époque-là, on s'était assis dessus. Bon, mais c'était quand même nécessaire. Ça jouait beaucoup plus pour les Italiens, pour les Français et d'autres, mais surtout pas pour Hollywood. Mais c'était quand même nécessaire pour donner un certain statut de noblesse à l'œuvre cinématographique. Il y avait Maupassant comme auteur de ses contes, et il y avait Renoir comme auteur de ses films, et pas seulement une équipe, même si l'équipe était consubstantielle au travail de Renoir. Bon, on a exagéré de ce point de vue-là en se trompant parfois d'auteur. Par exemple, en écrasant systématiquement John Huston et en portant au pinacle tout ce qui sortait de la signature de Minelli. Or, Minelli, quand on le revoit aujourd'hui, c'est pas grand-chose. À part les séquences de danse qui ne sont pas de lui. Bon, c'est le gros cinéma psychologique hollywoodien. Bon, je vous en concède un. Et l'histoire où il y a Kirk Douglas qui est producteur et Les Ensorcelés, The Bad and Beautiful. Celui-là est intéressant. Mais c'est le scénario qui est intéressant. Non, bon, enfin. En revanche, je me suis aperçu depuis que la plupart des films de Huston étaient très intéressants. Alors qu'on les écrasait de mépris à l'époque. On n'en parlait même pas. Il n'était même pas dans la liste des cinéastes dont on parlait. Mais pas chez Minelli.
Et justement, chez Minelli, moi, je pense que c'est un cinéaste beaucoup plus physique et plastique. Et c'est à mon avis, un des plus grands cinéastes à avoir marqué le cinéma par la couleur. Mais pas de manière. C'est pas Arthur Fried, c'est pas la production, c'est pas la MGM. C'est vraiment Minelli. Godard et Minelli, pour moi, c'est les deux seuls à avoir utilisé la couleur avec son expressivité dramatique.
Bon, le débat reste ouvert pour les générations futures. Moi, j'étais très déçu de revoir les films de Minelli. Enfin, j'avais même fait
un article. Comme un torrent, même.
Il y a des qualités certaines dans la, comment disait-on à l'époque, la direction d'acteur. Mais ça charrie des histoires tellement, tellement académiques, tellement banales, tellement grosses, avec des conflits psychologiques et moraux tellement pas possibles que moi je peux plus voir ça. Bon, mais c'est ma réaction d'aujourd'hui, ça n'a pas été celle d'il y a 20 ans. Je me rappelle même avoir écrit un jour un article complètement ridicule qui s'appelait « Entre Huston et Minelli » ou bien « De Huston et Minelli » qui finalement était si bien le contraire de ce que je jugeais 20 ans plus tard, que je l'avais mis au panier et refusé absolument de faire figurer dans mon recueil. Mais hélas, il doit pouvoir se retrouver quand même dans les cahiers, non pas dans les cahiers, dans la NRF peut-être.
Mais la notion de mise en scène, c'est corollaire à la notion d'auteur, mais c'est justement l'idée qui est une figure spécifique.
Non, c'est pas corollaire à la notion d'auteur.
Les deux ont surgi en même temps comme notion polémique.
Oui, mais enfin, le Louche fait de la mise en scène, paraît-il. Hein? Il y a la mise en scène au sens strict, qui consiste à disposer simplement les personnages dans le champ, et puis quelques objets, et dire la lumière viendra d'ici. Là. Bon, c'est carrément technique. Et puis, il y a la mise en scène au sens large de création de l'image et de la fiction. Chaque plan, par rapport à ce qui précède, ce qui va suivre, une politique générale de la lumière, par exemple, ou de la couleur. Ça, c'est déjà... À cette époque-là, pour les cahiers, pour nous, c'était la mise en scène comme création de fiction, comme création filmique, au sens très large. Et ça englobait carrément le traitement qu'on avait fait subir au scénario, le choix des acteurs, le tournage proprement dit, le montage... Voilà, c'était ça la mise en scène. Ça dépassait de 100 coudées la simple mise en place des acteurs au moment du tournage. Alors à ce moment-là, il y avait certes des points communs avec la conception que certains pouvaient avoir de l'écriture de fiction. Je dis bien de fiction parce que l'écriture poétique c'est autre chose. Et puis il y a toutes sortes d'écritures théâtrales, écritures de dialogue, de pure description, si l'on veut, qui échappe à la fiction. Mais en ce qui concerne le déroulement d'une histoire, la mise en place d'une histoire, donc la façon dont on va faire venir ce qu'on appelle un personnage, et comment on va le décrire, entre guillemets, dans le cadre qu'on lui aura fixé, comment il va se déplacer, cela, à cette époque-là, moi, je pouvais trouver certaines analogies avec la façon dont certains cinéastes faisaient leur travail. Mais ça ne va peut-être pas très loin, parce que il n'y a à la lecture d'un texte littéraire que les images, comme on dit, et quelles images, c'est difficile à préciser, qui trottent dans la tête du lecteur, et ça n'a rien à voir avec une image de film, et comme son, que la musique procurée par les mots lus de façon très générale à voix muette, même pas à voix basse. Alors, les musiques que ça produit, les sons que ça produit dans la tête du lecteur quand on lit sans articuler aucun mot ouvertement, sont probablement très différents d'un lecteur à l'autre. Et ça n'a rien à voir avec une bande sonore de film. Puis l'écrivain travaille sur des mots et tout ce que ça implique comme connotation, comme référence culturelle, chez chacun. Et ça n'a rien à voir avec la confection d'une image par une caméra. Bon. Mais peut-être au niveau sur le plan de cette histoire de relation de l'homme au monde. Là, on peut peut-être trouver des points communs dans la façon d'agir à une certaine époque entre quelques écrivains et quelques réalisateurs de films. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, je crois, sur la question.
On a l'impression que dans une série de films, dans les petits films modèles, on a l'impression qu'il y a comme deux vagues, cette espèce de conjonction entre la littérature et le cinéma. D'abord, vous parlez du cinéma muet allemand, et vous parlez, à un moment donné, de ces extraordinaires équipes qui ont fait le cinéma allemand. Vous dites que c'est des gens qui avaient déjà bouleversé des choses en théâtre, en littérature. Et puis après, il semble que ça ressurgit au moment où vous écrivez dans les années 60, avec les nouvelles vagues, et puis certains écrivains qu'on avait classés sous le label de Gardot, dans ce projet.
Oui, on peut dire que ça ressurgit, mais est-ce que ça avait été perdu de vue complètement?
Non, je vous citais quand même quelques films.
Il faudrait revoir ça dans le détail. Il y a probablement toute une série d'écrivains qui, dans les années 20, 30, 40, 50, ont également établi des parallèles de cette sorte. Je ne sais pas, mais on pourrait peut-être, en réfléchissant un peu, en trouver beaucoup. au Grac, Giraudoux peut-être, évidemment Sandrars et probablement bien d'autres. Hein. Ça serait intéressant d'ailleurs de faire un bouquin en étudiant cela de près, de décennie en décennie.
Il y a un livre en... de préparation comme ça.
Ah bon ouais, oui, je crois que...
Il enfin, va recueillir plutôt des textes d'écrivains classés, justement par ordre chronologique sur le cinéma.
Oui,
sur
la France. Les surréalistes aussi avaient un rapport intéressant au cinéma. Et puis après, bon, il se trouve que à l'époque de ce qu'on appelait Nouveau Roman, il y a eu certainement des rapports. Et puis, Nouveau Roman, Nouvelle Vague, c'était totalement contemporain dans le genre d'invention de ces sigles.
Et le fait quand même qu'il y a une espèce de relais qui se fait, c'est que Duras a besoin de prendre la caméra à un moment donné, alors que Sandrars, même s'il décrit la roue avec Gans, il ne prend jamais une caméra. Même s'il prend un appareil photo ou tout Kodak.
Non, mais des gens que Mepstein écrivait,
oui.
Et puis il n'était pas le seul à l'époque. Hein. Je ne me rappelle plus les noms, mais il y en avait plusieurs. Germaine Dulac, peut-être.
Deluc était romancier.
Deluc était romancier, oui. Et puis on l'en trouverait dans les années 10 aussi. Hein. Je crois que c'est comme ça depuis l'invention du cinéma.
Il y a peut-être une période de recension au moment du début du parlement, des années 30-40, et qui en plus est une période de recension
peut-être.
Quant à la critique du cinéma. Ça repart après la guerre,
oui.
Avec Bazin, Lénard, enfin, c'est ce qu'on a souvent dit dans l'histoire du cinéma, le parlant a décimé un peu tout ce qui était un peu avant-garde, film un peu expérimentaux, que ce soit en France ou en URSS par exemple. Il s'est plutôt établi une écriture de prose, parler comme Pasolini, qui a peut-être éloigné certains cinéastes.
Mais je pense que de toute façon, on ne peut pas parler de cela, on ne peut pas étudier ce qui s'est passé dans toutes ces époques, ce qu'il faudrait faire sans doute en multipliant les références, en lisant énormément, en revoyant beaucoup de films, on ne peut pas le faire en détachant cela du contexte historique général. C'est pas possible. Peut-être qu'on a plus spécialement parlé de ce parallélisme ou de ces effets de convergence à l'époque dite Nouveau Roman, Nouvelle Vague, parce que c'était une époque, d'après la Seconde Guerre mondiale, où des valeurs fondamentales avaient été remises en cause. Par exemple, la notion de roman. Le concept même de roman dans l'idéologie culturelle. Parce qu'il s'était produit des événements considérables entre 40 et 45 qui avaient bouleversé les façons de sentir et, comme on dit, les façons de voir. Le fait est que, en ce qui me concerne, c'est...